vous invite à trouver l'évangile de Matthieu chapitre 5, où nous étudions le sermon sur la montagne depuis un bon moment. Pour avoir le contexte, nous allons lire du verset 17 à verset 20, et puis le passage de ce matin qui est du verset 27 au verset 30. Donc 17 d'abord. C'est le Seigneur qui dit: ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Ainsi la lecture de la parole. Tu peux commettre l'adultère sans toucher. C'est le titre de notre message ce matin. Nous avons vu que, laissés à nous-mêmes, nous sommes tous un peu pharisiens. Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire, si vous faites avec ma loi, qui définit qu'est-ce que la justice, si vous faites avec ma loi ce que les scribes et les pharisiens font, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Parce que la justice que des scribes et des pharisiens, la justice, la norme de justice à laquelle ils tenaient, c'était la loi de Dieu bis. Enfin, la loi de Dieu light. La loi de Dieu avec les angles arrondis pour nous convenir. Ils diluaient la justice que Dieu vous demande d'avoir, et nous le faisons aussi, afin que nous puissions vivre comme nous on veut, une loi égoïste. Nous faisons ça constamment. J'ai eu un exemple frappant. Je parlais avec quelqu'un dans la semaine, et cette personne qui était polonaise m'a expliqué les grèves immenses en Pologne cette semaine au sujet de la question de l'avortement. Et cette dame, quand je lui disais que l'avortement est le fait de prendre la vie d'un être humain innocent et vulnérable, elle m'a dit, je ne ferai jamais un avortement, mais moi je crois que le choix doit être laissé aux femmes. Parce que vous savez, elle dit, avoir un enfant handicapé et pas assez d'aide du gouvernement pour subvenir aux besoins, non, c'est pas possible. Et vous voyez, on baisse la loi de Dieu, on baisse l'exigence, ce qui est juste, pour convenir à ma vie, pour que ma vie me soit convenable. Tu ne peux me demander que ce qui n'est pas trop difficile. Vivre avec un enfant handicapé, pour mon égoïsme, c'est trop difficile. Donc, ça ne peut pas être une exigence de ne pas tuer cet enfant. Vous voyez? Nous arrondissons les angles parce que tout doit nous convenir. Je vais obéir si ce n'est pas trop dur pour moi. Si ça ne coûte pas. Si ça me convient. C'est un peu cet esprit pharisien donc que nous avons tous. Moi, je l'ai. Vous, vous l'avez. Nous luttons contre cela, n'est-ce pas? Et je donne l'exemple de cette dame sans la juger, parce que je me vois dans les endroits où j'arrondis les angles aussi. Mais Jésus dit qu'il est venu pour restaurer, non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir. Et nous avons vu que ce mot « accomplir » en grec veut dire amener à la plénitude, donner le vrai et plein sens encore à la loi de Dieu qui est une loi d'amour. Car Jésus dit que le sommaire de la loi, tout ce que la loi veut dire, c'est « tu aimeras Dieu de toute ta force et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et il veut donner tout le sens à cette loi. Donc, Jésus a fait venir le royaume de Dieu. Ce royaume viendra. Il n'est pas encore là. La civilisation humaine ne sera plus un jour. Ne sera plus. Et à sa place sera le royaume de Dieu. Ses voies. Sa manière de vivre. Son mode. Sa présence. Mais en attendant, Jésus a déjà apporté le royaume en avant-goût. Il est venu lui-même. Et il fait venir le futur royaume pénètre déjà ici. Et vous, si vous êtes vraiment croyant, vous êtes en train de vivre en partie déjà une manière de vivre avec une puissance qui n'est pas de ce monde, mais une manière qui est céleste. N'est-ce pas? Et donc, Jésus, en venant, apporte la puissance de ce royaume, mais il ramène aussi la norme de ce royaume, la justice du ciel. Il va la vivre parfaitement, et il va maintenant l'expliquer. Et c'est ainsi que nous arrivons à son exposition de certains commandements des Anciens Testaments, où il va expliquer comment les pharisiens ont dilué le sens, et il va redonner le plein sens à chaque commandement. Excusez-moi pour cette longue introduction. Maintenant, un mot sur Dieu et le sexe. La Bible nous enseigne très clairement que c'est Dieu qui a créé le sexe et il est entièrement pour le sexe et le plaisir sexuel et l'expérience sexuelle dans son propre cadre. Je lis en Proverbe, chapitre 5, à partir du verset 15, où Dieu dit par Salomon ce conseil aux hommes. « Bois les eaux de ta citerne. » C'est une manière imagée de dire, donc, « Jouis-toi de ta femme. » Ok ?« Bois les eaux de ta citerne, celles qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre en dehors ? Ces ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi, que ta source soit bénie et fais ta joie de ta femme, de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Ça, c'est le conseil de Dieu aux âmes. Soyez en tout temps enivré de ses charmes et épris de son amour. Dieu aime cet attachement sexuel dans le cadre du mariage fidèle. La deuxième chose au sujet de Dieu et du sexe, c'est que Dieu a créé le sexe pour une raison, en fait plusieurs raisons, et ces raisons déterminent ce cadre légitime. Pourquoi est-ce que Dieu a fait le sexe? Pour la reproduction, pour que la race se reproduise et tout, mais la raison principale, selon la Bible, c'est que Dieu a créé le sexe comme un facteur, une expérience entre un homme marié et son épouse, une expérience qui exprime et qui approfondit cette réalité que les deux sont devenus un, qu'il y a un attachement, un engagement, un amour tellement grand qu'ils ne sont plus deux, je ne suis plus à moi-même. Mon corps n'est plus à moi, mais à ma femme, dit Paul en Corinthiens 7. Et la femme dit, mon corps n'est plus à moi, mais je suis tout entier à mon mari. Et dans cet acte sexuel, le couple exprime cette intimité, le fait que ce don complet de soi à l'autre pour lui, pour elle, par lequel je ne retiens rien. Mais je donne tout ce que je suis à cette personne. Et aussi, ça exprime cette complémentarité que j'ai besoin de toi et tu as besoin de moi parce que dans cet acte sexuel demande, exige une femme et un homme pour être réel. On pourrait dire plus, mais nous devons comprendre que l'acte sexuel tel que Dieu l'a voulu n'est pas comme l'accouplement d'un animal. Prenons le chien. Le chien, le mâle de l'espèce, peut s'accoupler avec plein de femelles sans jamais s'attacher à une chienne en particulier. N'est-ce pas? Et c'est animal. Mais dans notre société, les hommes deviennent un peu comme ça parfois, n'est-ce pas? Mais cela n'a pas été le dessein de Dieu. L'homme a été fait à l'image de Dieu avec la possibilité d'aimer comme Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que un homme peut, et je parle un peu plus aux hommes aujourd'hui que, mais je parle aux femmes aussi, mais le passage lui-même, Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme, pour la convoiter, il parle plus directement aux hommes. Mais je veux vous dire que dans la vraie sexualité, c'est dans ce cadre que l'homme est capable, écoutez bien, de fixer son choix sur une femme, de se donner à elle de manière exclusive et permanente, de sorte qu'il n'aimera jamais une autre femme comme elle à cause de son choix. Il est capable de s'engager et d'exclure par un choix moral, un engagement. C'est très fort ce que l'homme est capable de faire. Et d'exclure les autres femmes de cette place particulière dans son cœur qu'il a donnée à une seule et pour toujours. Et ça, c'est ce que la Bible appelle un amour alliantiel, alliantiel. Un animal n'est pas capable de le faire, mais un homme est capable de former, par son choix et par sa puissance d'aimer exclusivement, de former une alliance permanente avec une femme. En d'autres termes, je voudrais vous dire que pour comprendre le sexe, la sexualité humaine, il faut la mettre dans ce cadre de l'amour alliantiel. D'accord? Au sein de cet amour, il a un sens infiniment différent que l'accouplement d'un animal. Infiniment différent. L'amour n'est pas la convoitise. La convoitise dit « Je veux pour moi ». L'amour dit, je veux te bénir. et prendre soin de toi et te donner. Deuxième point sur votre fiche, si vous l'avez, comment les pharisiens tentaient d'arrondir les angles du septième commandement? Nous lisons tout simplement dans le passage et sans commentaire de la part de Jésus. Vous avez entendu, donc verset 27, qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis. Jésus cite textuellement, mot par mot, le septième commandement des 10 commandements. Mais il sous-entend que les pharisiens avait fait quelque chose avec ce dixième commandement. Et nous savons, d'après les écrits des rabbins, que les pharisiens avaient limité l'adultère à l'acte physique. D'accord? Et ils avaient même limité la sanction civile en Israël à l'acte physique. D'accord? Et Jésus va maintenant corriger et donner à ce commandement tout son sens. Il va nous dire que tu peux ne pas commettre l'adultère, tu n'as pas touché, pardon, tu n'as pas commis l'acte physique de te coucher avec une femme, tu ne l'as pas touché, mais tu as commis véritablement un adultère avec elle. Donc voilà comment il le dit. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si vous voyez il y a une force incroyable, une exigence d'amour immense dans ce verset. Quiconque regarde, même si tu regardes une fois, une femme juste comme un objet sexuel, égoïstement par rapport à tes plaisirs, juste le regard une fois, tu as commis un adultère dans ton cœur. C'est-à-dire, Jésus dit, Dieu exige que vous aimiez tellement fort et tellement vrai que vous ne vous permettez même le regard convoiteur vers une femme qui n'est pas la tienne. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Tellement d'honneur, tellement de respect dans mon cœur envers chaque dame qui passe, que je refuse de l'exploiter dans ma pensée, dans mon cœur. Comme si elle était un objet pour mon assouvissement. Maintenant, Jésus nous montre donc qu'un simple regard, et c'est le point 3A, un simple regard des yeux peut être un adultère à cause du désir adultère qui le motive. Regardez bien les termes de cette phrase. Quiconque regarde une femme pour, c'est pas le regard, c'est la raison. Quiconque regarde une femme pour la convoiter. Et ce n'est pas le fait d'apprécier la beauté de cette femme. Si tu veux être humain et normal, tu dois apprécier la beauté d'une femme. Mais c'est le fait de détourner cela et de la regarder comme un objet sexuel pour satisfaire tes désirs. Le désir, donc, dans le cœur, le désir adultère exprimé par le regard, point B, est l'essence et le fondement de tout adultère. Donc, l'adultère n'est pas un acte de donner, n'est pas un acte de voir la personne telle qu'elle est, femme d'un autre, ou femme future d'un autre, et de la respecter dans sa vraie identité. Non, le regard adultère tue son identité dans beaucoup de ses parties, oublie que c'est la femme d'un autre, oublie que ça va être la femme d'un autre, et regarde la femme juste comme un corps qui est beau, un visage qui est beau. Voyez le problème? Je détruis ce qu'elle est et je laisse seulement le corps et le visage que je convoite sexuellement. D'ailleurs, ce regard adultère est une sorte de vol, parce que je suis en train de voler la femme d'un autre. J'utilise ta femme pour une expérience sexuelle pour moi. Voilà. C'est pour cela que aucun homme qui aime sa femme n'aime pas voir un autre homme la regarder d'un regard convoiteur. Le désir d'adultère est un désir, pas d'amour, mais d'exploitation. C'est pour cela que dans certaines pubs, on montre le corps d'une femme d'une manière séduisante, mais on coupe et on ne montre pas la tête. Voilà une femme qui est vraiment sans identité. Parce que c'est seulement les jambes ou le corps qu'on veut. Et ça, c'est vraiment un bon portrait de ce regard et ce désir du cœur qui est adultère, qui n'est pas amour, qui est détourné. Si, et j'insiste là-dessus, si on veut le pousser jusqu'à l'extrême pour que vous puissiez voir la nature du regard et du désir adultère, nous pouvons prendre... Oui, nous pouvons prendre le cas terrible d'un violeur, un violeur même en série. Voilà une personne qui maintenant est devenue obsédée par lui-même, ses désirs sexuels, de sorte qu'il suit des femmes. Ils s'en fichent, excusez-moi, de leur nom, de leur identité, de qui elles sont. Du fait qu'elles ont des enfants qui sont très attachés à elles, du fait qu'elles ont un mari qui les aime, un futur brillant, il les suit, il les veut pour une seule raison, ses propres désirs à lui, et détruisant son identité, parce que ce serait très difficile pour lui de la violer, même de la tuer, en considérant que c'est quelqu'un qui a un nom, qui a un enfant, qui a un futur, qui a un parent qui dépend d'elle. Mais détruisant tout cela, refusant d'admettre cette vérité, il regarde la femme seulement comme objet sexuel et il la viole. Donc lorsque nous le poussons à cet extrême, nous voyons à quel point le désir adultère est vraiment méchant, mauvais, exploitant et suprêmement égoïste. Nous arrivons donc au point 4, mais je dois juste ouvrir une petite parenthèse pour dire aux femmes que je parle beaucoup aux hommes, mais vous aussi, vous pouvez être coupable de regard adultère, ou bien de vouloir attirer le regard adultère et de prendre plaisir dans le fait de tourner les têtes. Et quand vous faites ça, vous avez aussi commis un adultère dans votre cœur sans toucher. Parce que vous êtes entré dans le jeu de vouloir faire de la sexualité, votre sexualité, dans quelque chose qu'elle n'est pas du tout. Donc, le point 4. L'adultère du cœur et des yeux est un péché très grave qui vous conduira à l'enfer si vous ne le résistez pas. Nous sommes obligés d'arriver à cette conclusion lorsque nous lisons ces paroles. Lisez avec moi. Jésus, au verset 29, dit « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, donc de commettre ce regard adultère, son toucher, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. » En d'autres termes, si vous ne résistez pas, le regard convoiteur, le regard adultère. Si vous acceptez et embrassez cette manière de vivre, ce qui vous arrivera, c'est que votre corps entier, c'est une manière de parler de votre personne, sera jeté tout entier dans la géhenne. Dieu est tellement contre l'adultère, même sans toucher, non pas parce que c'est un acte isolé, mais pourquoi est-ce que Dieu est tellement sévère? C'est parce que vous auriez dû déjà comprendre que l'acte adultère, ce n'est pas l'acte en lui-même. C'est que dans le cœur, tu es en train d'embrasser un principe qui est la rébellion complète contre tout ce que Dieu est dans son amour, contre tout ce qu'il veut, contre tout ce que toute sa loi signifie. Vous êtes en train d'établir un royaume qui est en fait l'opposé entier du royaume de Dieu. Et vous voyez comment l'adultère détruit des familles, détruit les vies, détruit la vie des enfants qui voient leurs parents se divorcer à cause de l'adultère. Et ce sont des signes que ce n'est pas juste un acte isolé. C'est un acte de rébellion et de destruction de ce que Dieu a créé. Et nous en sommes tous coupables. Moi et vous. J'arrive au point 5, c'est le dernier point. L'adultère du cœur et des yeux est un péché très puissant qui demande des mesures extrêmes pour le vaincre. Alors, regardez les mesures extrêmes que Jésus conseille dans les versets 29 et 30. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. » Et puis, plus tard, dans le verset 30, il dit « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. » Alors, c'est parce que le péché sexuel est un péché, une tentation extrêmement puissante. J'ai eu un coup de fil il y a 2 semaines d'un jeune homme en France et sa femme qui m'ont appelé parce que problème de pornographie dans la vie du jeune homme. La femme est déchirée. Son homme n'a touché personne. Mais il a commencé à jeter son regard sur d'autres femmes sur l'écran. Et je rencontre constamment cela maintenant, de plus en plus en tant que pasteur, et Internet joue un rôle immense dans tout cela. Je vais vous donner un exemple des États-Unis, un exemple de la France. L'industrie de la pornographie a explosé maintenant et dépasse, écoutez bien, aux États-Unis, les revenus, tous les revenus du baseball, du basket et du football américain combinés. Tout ce que ces sports rapportent dans les stades, par les billets, par tout, l'industrie de la pornographie rapporte plus. Il y a littéralement des millions de sites pornographiques sur le web maintenant. Et les experts nous disent 800 millions de vidéos pornographiques et DVD sont maintenant disponibles au public sur l'Internet. Dans l'année 2000, un certain Robert Weiss, directeur d'un institut de traitement d'accoutumance sexuelle, à Los Angeles, qui a écrit un livre là-dessus, il a dit 60% de toutes les visites sur le web sont sexuelles en nature. Et le sexe est devenu le thème de recherche numéro 1. En France, 1,5 million de vidéos pornographiques vendues chaque année. Chiffre d'affaires annuel de la pornographie en France, 200 millions d'euros. 80% des connexions sur Internet aboutissent à un site X. C'est le nouvel observateur, juillet 2002, qui le dit. Sinon, je ne serais pas prêt à le croire. La pornographie représente en France 40% du marché de la vidéo et 50% du chiffre d'affaires des distributeurs automatiques. Je vous ai dit que Jésus parle de mesures extrêmes parce que le péché sexuel fait des ravages incroyables. Maintenant, qu'est-ce que Jésus nous conseille? Regardez bien de ces phrases et nous finissons comme ça. Nous sommes au point 5b, donc qui demande des mesures extrêmes pour le vaincre. Et le numéro 1, comprenez que certains désirs en vous ne sont pas vous. Certains désirs en vous ne sont pas vous, mais des ennemis qu'il faut résister. Beaucoup d'hommes sont pris dans un piège parce qu'ils croient quelque chose qui est pertinemment faux. Ils croient, selon cette pensée moderne, dans la secte d'expression de soi. C'est-à-dire, je suis un ensemble de facultés, de désirs, fruits de l'évolution, n'est-ce pas? Et tous ces désirs, il faut que je les exprime parce que c'est ça qui est naturel. Et si je n'exprime pas un désir, ça veut dire que je suis dans la répression de ce qui est le vrai moi. Vous avez entendu un peu cette pensée? Ok. Regardez bien le passage et regarde comme Jésus dit exactement le contraire. Il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Ton œil n'est pas toi. Maintenant, je vous explique, Jésus ne parle pas littéralement, bien sûr. Et il nous donne un indice qu'il ne parle pas littéralement d'arracher un œil, parce qu'il dit si ton œil droit, comme si l'œil gauche allait bien, ne regardait jamais les femmes. Hein? Pasteur, j'ai un problème avec mon œil droit, c'est seulement loin. Bon, vous mettez un patch là, et c'est bon. Vous voyez que Jésus n'est pas en train de parler littéralement. Ok, donc n'arrachez pas un œil. Mais métaphoriquement, il est en train de parler d'utiliser des mesures drastiques. Ok, ça vous parle? Ok. Donc Jésus nous montre que nos facultés et ou nos désirs qui sont représentés par cet œil droit ne sont pas nous. Jette-le loin de toi. Le n'est pas toi. Débarrasse-toi de cela, ok? Parce que ce n'est pas toi. Jésus donne une anthropologie, une vue de l'être humain qui est beaucoup plus profonde. Je ne suis pas l'ensemble de mes désirs. En fait, certains de mes désirs ne sont pas du tout moi. Ce sont les désirs de la chair qui sont des intrus. Ce n'est pas ma vraie identité. Dieu ne m'a pas créé avec ses désirs. Il n'a pas créé l'humanité pour les avoir comme cela. Et c'est des intrus qui déforment mon identité. Le vrai moi ne peut jamais fleurir tant que je ne rejette pas ce désir qui est en moi, mais qui n'est pas moi. C'est profond, hein? C'est profond. Mais il faut changer ta pensée. Tu n'es pas fait pour être comme un chien. Tu es fait pour être tellement aimant que les désirs sexuels sont tenus dans leur place par ton respect, ton honneur, ta dignité, ta pensée envers le bien de la personne en face. Deuxièmement, Jésus parle, et je suis dans ce dernier point, deux que vous voyez, prenez certaines mesures dramatiques pour enlever les occasions de chute. Le but de ces mesures, c'est d'éloigner complètement de votre vie l'occasion du désir adultère. Il dit, arrache ton œil et jette-le loin de toi. Jette-le loin. Il y a quelque chose que tu dois enlever de ta vie. Et il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute. Je veux en tant qu'homme enlever de ma vie ce qui est pour moi, ce qui attise, ce qui provoque le désir adultère. Et je veux éloigner ça de façon radicale et permanente de ma vie. Ça peut être pour un jeune homme, le fait de mettre un filtre sur son ordinateur et que sa femme ou un frère en Christ est le seul à avoir le code. Un filtre qui ne permet à aucun site pornographique de s'afficher sur l'écran. Je recommande vivement à tout jeune homme de faire cela. S'il a le moindre problème avec la pornographie. Ça, c'est radical, n'est-ce pas? C'est radical et c'est jeter loin de toi. Vraiment, tu t'enlèves l'occasion de chute, tu n'as même pas lutté parce qu'il n'y a pas de champ de bataille. Deuxièmement, Jésus dit, pour éloigner ces occasions de tentation, vous devez renoncer à certaines choses spécifiques qui varient selon les personnes. Pardon. Ça vous gêne si je laisse pendre? Okay. Donc, regardez bien. Jésus dit, si ton œil droit, et puis il donne une autre possibilité, si ta main droite. En d'autres termes, ça dépend de la personne. Pour toi, c'est peut-être l'œil. Pour lui, c'est peut-être la main. Et tout cela est métaphorique. Mais il doit dire, vous n'allez pas tomber dans une vie sainte. Vous allez réfléchir et détecter où est l'occasion de chute pour moi. Qu'est-ce qui me pousse à avoir ces pensées adultères? Est-ce que c'est l'écran, c'est le web? J'ai de la difficulté, dit un jeune homme, à la plage l'été, ou certains films, ça dépend de la personne. Pour un jeune homme chrétien, ou un homme plus âgé, la plage ne lui cause aucun problème. Mais pour un autre, oh là là, il va lutter tout le temps. N'est-ce pas? Et il faut savoir pour vous, si c'est la main, si c'est l'œil, et enlever autant que possible ces occasions. De tentation. Et ensuite, les choses à renoncer sont parfois bonnes et légitimes en soi. Un œil, une main, ce sont des choses légitimes. C'est presque choquant de voir Jésus dire, mais prends ton œil et jette-le. Dans notre vie, parfois, il y a des choses qui en soi sont bonnes, mais si ça devient une occasion pour vous de pécher et de regard adultère, alors enlevez-le. Voilà un jeune homme qui aime rencontrer un ami au café sur le cours Mirabeau et il est très curieux, il aime beaucoup regarder les gens passer. C'est vraiment intéressant. Il s'intéresse aux gens. C'est complètement légitime et innocent. Et même bien, je crois qu'il peut y avoir quelque chose de bien, il peut y avoir quelque chose de mal aussi. Mais cette personne, peut-être pour lui, c'est juste une façon de s'intéresser au monde. Mais voilà un autre homme que quand il est là sur le cours Mirabeau, au café avec son ami, alors, il tombe dans le piège de ne pas regarder les gens passer, mais regarder les femmes passer. Et pour lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, s'il veut boire son café comme ça, peut-être il met le dos, il se met à dos du trottoir. Et il parle avec son ami. J'invente, vous allez voir pour vous-même. Mais il y a des choses même légitimes où on est amené à dire, au moins pour un temps, jusqu'à ce que notre cœur s'améliore par la grâce de Dieu, que non, j'arrive pas à faire ça bien. Et la dernière chose, c'est que vous devez vous faire violence. Il dit, arrache-le, coupe-le. Parce que parfois, dire non à regarder cette série de télé qui est tellement intéressante, tellement bien, j'aime cette série, Mais cette série me cause quelques problèmes aussi. Dire non à ça, il va falloir que je me fasse violence. Parce que j'ai l'impression que quelque chose est tué en moi. Non, je dois regarder jusqu'à la fin. Et tuer quelque chose est dur, mais parfois, il faut le faire. Voilà les conseils de Jésus par rapport à notre vie en tant que pécheurs qui sont en train d'être changés par le Christ. Mais je conclus en disant ceci. Toutes ces mesures, bien sûr, ne vont pas marcher si votre cœur n'a pas été régénéré, né de nouveau, et vous n'êtes pas en train d'être changé petit à petit pour devenir quelqu'un qui aime réellement, qui voit la personne telle qu'elle est dans tout son contexte et la prend comme ça et la respecte et l'honore dans sa vraie identité. Comme un père avec sa fille. Pour moi, c'est l'exemple incroyable. Pour autant que je sache, un homme normal, un père normal, n'est même pas capable de regarder sa fille avec un regard convoiteur. Il n'y a même pas de tentation. Ça, c'est extraordinaire. Parce que ce même homme, il peut sortir dehors et la première femme qui passe, il la regarde, il n'aurait pas dû comme ça. Mais il ne l'a jamais fait avec ses filles qui sont grandes, qui sont belles, et il n'a même pas été tenté. Quelle est l'explication de cela? L'explication de cela, c'est cet amour paternel qui embrasse la personne telle qu'elle est, sa fille. Je suis son père. Et c'est une chose formidable. Mais poussez ça plus loin et vous voyez que nous avons besoin de grandir dans l'amour pour chaque personne telle qu'elle est. Et je vous dis que surmonter ce péché d'adultère, c'est une œuvre du salut. C'est une œuvre de Dieu qui vient nous sauver de plus en plus de nos péchés par Jésus-Christ, par son pardon, par son sang, par son esprit. Et en tant qu'homme qui a marché avec le Christ pendant presque 40 ans, je peux témoigner avec tous mes péchés qui restent en moi, même dans ce domaine, que Dieu est capable de, j'allais dire vachement, grandement, grandement changer le cœur d'un homme. Et il peut le faire à sa gloire. Que nous puissions donc le suivre sur les traces de sa loi dans tout son sens. Excusez-moi d'avoir été si long. C'est un sujet difficile qui demande parfois certaines nuances et en tout cas, je trouve toujours très difficile d'enseigner sur ce sujet.